www.radioscoop.com.
Une émission diffusée la première fois le 7 mars 2006.
La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole.
France Culture. La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
filles. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous avons, grâce à Plutarque, visité les lieux de la Rome antique qui étaient regroupés thématiquement pour des raisons pratiques, comme c'est encore parfois le cas dans certaines villes aujourd'hui. Par exemple, les bâtiments touchant aux politiques étaient près les uns des autres et des temples qui honoraient les dieux et déesses liés à ce rôle politique. Ainsi également ceux des fêtes et des sacrifices, etc. Le texte de Plutarque, Question romaine, commenté ici par le professeur John Shedd, qui en a découvert le mécanisme, autorise une visite savante et vivante des institutions de la religion et de la société romaine. Ce livre de Plutarque semblait jusqu'à présent si peu cohérent qu'on prenait les questions romaines pour un ensemble de fiches préparatoires en vue d'un autre livre. John Shedd en a montré la parfaite unité, et cette unité révèle la curiosité savante de Plutarque. Curiosité que nous avons le plaisir de partager et qui réveille avec bonheur nos connaissances de l'Antiquité. Rappelons que ce livre est édité en livre de poche sous le titre « Grec et Romain en parallèle ». Titre qui se justifie aussi puisque Plutarque, qui est un grec de Chéronée citoyen romain, compare bien souvent dans ce livre les pratiques et les noms grecs et latins. Si vous suivez le cours avec le livre en main, sachez que nous en sommes aux questions 49 et 50.
Continuons notre lecture. Rappelons-nous que nous sommes censés nous trouver quelque part à l'angle du forum, peut-être sur la pente inférieure du Capitole, où nous examinons une série de questions sur la vie politique. Nous venons de découvrir la naissance du politique à Rome. Maintenant, Plutarque développe une série d'aspects de la vie politique. Ainsi, la 49e question mentionne les candidatures aux élections qui se déroulent au forum. Je lis la question. Pourquoi la coutume voulait-elle que ceux qui briguaient une magistrature le fissent en toge, sans tunique, comme le rapporte Caton? Est-ce pour qu'ils ne se livrent pas à la corruption en apportant de l'argent dans le pli de la tunique? Ou bien est-ce plutôt parce qu'ils choisissaient ceux qui étaient dignes d'une magistrature, non pas d'après leur famille, leur richesse ou leur réputation, mais d'après leurs blessures et leurs cicatrices? Descendaient-ils donc faire leur campagne sans tunique pour que ces blessures fussent remarquées par ceux qui la rencontraient? Portez juste la toge. Dernière possibilité, ou bien encore, dénuder leur corps était-ce pour eux une façon de se rendre humble, de même que parallèlement, ils se rendaient populaires en saluant de la main les citoyens, en les interpellant et en faisant montre de simplicité. La vie politique n'a pas changé depuis l'Antiquité. Nous savons que nous sommes au forum, puisque l'expression « descendre » dans l'expression « descendre, faire campagne » Epitas parangelias catesan, qui correspond à la tournure latine simplement descendere, descendre, voulait dire descendere in forum, descendre au forum. L'évocation de l'habillement archaïque des candidats, littéralement togati sine tunicis, en toge sans tunique, permet ensuite de renvoyer à deux statues représentant Romulus et Titus Tassius, en toge sans tunique, qui se dressait, d'après Pline l'Ancien et le commentateur de Cicéron Asconius, au Capitole. Cela veut-il dire que le lecteur se tourne vers le Capitole? Il se trouve au pied de la colline. Mais, sans doute, de l'endroit où on est, il n'aurait pas pu voir ces statues qui étaient cachées par les édifices environnants, d'autant plus qu'on ne sait même pas si elles existaient encore sous l'Empire. L'honnêteté m'oblige à supposer que le lecteur ne faisait pas une incursion intempestive sur le Capitole. Hein. J'ai exclu a priori ce genre de petit jeu. Mais je ne donnerai pas de verge pour me faire battre. Les deux statues ne sont en fait pas nommées par Plutarque et nous ne sommes pas contraints de les faire entrer dans notre raisonnement. C'est juste un exemple finalement de cette tenue, de l'expression d'Escandéré et aussi de la tenue de Caton, d'une part, et de l'autre, une tradition sur Romulus et Titus Tassius dans cette tenue au Capitole. Mais rien ne nous impose de les faire entrer dans notre débat. Supposons simplement que notre lecteur reste sur place, au forum, et que certains lecteurs ont à la limite pu percevoir cette éventuelle référence discrète aux deux statues du Capitole, puisqu'on vient de parler d'eux, de Romulus et de Titus Tassius et de la fondation du politique. C'est possible, mais je ne l'exclus pas, mais ce n'est pas nécessaire. Nous sommes à l'endroit où on fait candidature. La suite prouve que j'ai raison, même si la question 50 paraît, à première lecture, me donner tort. Oui, voilà, l'expliquait le texte d'Asconius aussi et de Pline. Voilà la 50e question. Je lis. Pourquoi le prêtre de Zeus, le Flamen Dialis, déposait-il sa charge quand son épouse était morte, comme le rapporte Athéus? Est-ce parce que celui qui prend puis perd une épouse légitime est plus infortuné que celui qui n'en prend pas? Car la maison de l'homme marié est complète. Au contraire, la maison de celui qui, après s'être marié, a perdu son épouse, n'est pas seulement incomplète, mais encore mutilée. Ou bien est-ce parce que l'épouse est la collègue sacerdotale de son mari, de sorte qu'il n'est pas possible de célébrer de nombreux rites si elle n'est pas présente? D'autre part, n'est-il peut-être ni possible, ni d'ailleurs convenable d'en épouser immédiatement une autre, après avoir perdu la première? C'est pour cela qu'il n'était jadis pas permis aux Flamines de répudier sa femme. Et maintenant encore, à ce qu'il paraît, c'est interdit. Mais de nos jours, Domitien l'a autorisé sur demande. Et les prêtres assistèrent à la dissolution du mariage et ont exécuté de nombreux rites effrayants, étranges et sinistres. On aimerait bien savoir de quoi il s'agissait. On serait moins étonné quand j'aurais ajouté que lorsqu'un des deux censeurs mourait, l'autre devait démissionner de sa fonction. Quand le censeur Livius Drusus décéda, son collègue Scaurus Aemilius refusa de renoncer à sa charge jusqu'à ce que quelques-uns des tribuns eurent ordonné de le conduire en prison. Voilà donc cette question, très intéressante par ailleurs, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. À première vue, cette question qui concerne le Flamine de Jupiter se réfère au Capitole, au temple de Jupiter, d'après le principe général que nous avons adopté. D'ailleurs, les statues de Romulus et de Titus Tassius en tenue archaïque, auxquelles Plutarque fait peut-être une allusion implicite dans la question précédente, pourraient pointer dans cette direction. Nous verrons toutefois que les questions suivantes concernent plutôt le côté sud du forum et que ce coup d'œil vers le Capitole n'est peut-être pas nécessaire. Certes, nous pouvons toujours imaginer qu'un coup d'œil vers la colline tombait sur l'énorme temple de Jupiter et pouvait susciter une question sur son prêtre. Nous avons adopté cette explication déjà précédemment. Mais une solution plus économique est possible. Si le lecteur se trouve du côté du Comitium, ou à proximité du temple de Saturne, il n'y a pas encore à l'époque l'arc de Septime Sévère, d'où il voit le Comitium, il suffit qu'il regarde tout droit vers le sud, ou tourne le regard légèrement vers la droite, pour voir, derrière le temple du divin Jules César, le bâtiment appelé la Regia. Ce vénérable bâtiment, qui d'après les légendes aurait été la résidence des rois, servait à l'époque historique de siège au collège pontifical, qui comprenait, outre les pontifes, le roi des rites sacrés, les flamines, et entre autres aussi le flamine de Jupiter. C'était là un fait bien connu. Et si nous lisons la question, elle concerne en fait moins Jupiter et son culte que le flamine de Jupiter et son statut, sa légitimité. Les aspects statutaire et administratif presque du prêtre. Je proposerai donc cette solution, que le lecteur est censé plutôt contempler le siège administratif du collège pontifical sur le côté méridional du forum. Une fois de plus, la suite du texte confirme cette présomption. En effet, la question suivante, de quoi parle-t-elle? Elle concerne la chapelle des Lares Praestites. Je lis. Pourquoi un chien se tient-il à côté des lares, les larettes, comme dit Plutarque, appelées proprement praestites? Et pourquoi ceux-ci sont-ils vêtus de peau de chien? Est-ce que les praestites sont ceux qui se placent devant? Et est-ce qu'il convient que ceux qui sont placés devant la maison soient de bons gardiens, terribles pour les étrangers, comme l'est le chien, mais en même temps bienveillants et doux à l'égard de ceux qui habitent avec eux? Ou bien, à ce que disent certains Romains, est-ce plus vraisemblable? De même que les philosophes de l'école de Chrysippe estiment que partout errent des esprits méchants, dont les dieux se servent comme bourreaux pour châtier les hommes impies et injustes, de même les larettes, en quelque sorte semblables aux érinies, sont des esprits vengeurs, contrôleurs des vies et des maisons. Voilà pourquoi ils sont couverts de peau de chien, et qu'un chien est leur compagnon, puisqu'ils sont censés être capables de retrouver et de découvrir les méchants. Voilà cette question. D'après les reconstructions topographiques actuelles, la chapelle des Lares Praestites, des Lares qui protègent littéralement, se situe à côté du temple de Vesta, in summa sacra via, dans le tronçon supérieur de la voie sacrée, comme l'écrit Auguste dans les Res Gestae. Philippe Ocoarel y situe cette ancienne chapelle derrière la maison, ou temple ou chapelle, derrière la maison des Vestales, à l'endroit où la Nova Via, vous le voyez sur le plan, rejoint la Sacra Via. Si cette hypothèse est exacte, elle confirme parfaitement l'idée que l'auteur fait se tenir le lecteur au-dessus du comitium, là où j'ai marqué forum, et qui regarde vers le sud, comme je l'ai dit. Le commentaire de cette question est très intéressant pour la composition de l'ouvrage, pour la technique littéraire de Plutarque. Trois éléments sont à analyser, les lares, leur épiclèse praestites, et les chiens. Deux propositions sont faites. D'abord, Plutarque part de l'épiclèse. Est-ce que les praestites sont ceux qui se placent devant, et est-ce qu'il convient que ceux qui sont placés devant la maison soient de bons gardiens, comme l'est le chien, terrible pour les étrangers, mais en même temps bienveillants et doux à l'égard de ceux qui habitent avec eux. Cette interprétation est limitée et intègre tous les éléments de la question sans trop appuyer sur eux. La deuxième est beaucoup plus raffinée. Ou bien ce que disent certains Romains est-il plus vraisemblable, etc. De même que les philosophes de l'école de Chrysippe estiment que partout errent des démons dont les dieux se servent comme bourreaux pour châtier les hommes impies et injustes, de même les lares en quelque sorte, comme les érinies, sont des esprits vengeurs, contrôleurs des vies et des maisons, et voilà pourquoi les lares sont couverts de peau de chien, et qu'un chien est leur compagnon, puisqu'ils sont censés être capables, avec un S, de rechercher et de découvrir les méchants. À première vue, Plutarque s'inspire d'un thème stoïcien pour attribuer aux lares une fonction de contrôleur et de chasseur de méchants, semblable à celle des érinies. Et c'est cela que leur vêtement étonnant, en peau de chien, est censé représenter. Mais en creusant un peu, on découvre à nouveau, derrière tout cela, une construction plus soignée encore. Ovide, qui emploie dans ses fastes les mêmes arguments, hein, tout ça n'a pas été inventé par Plutarque, des arguments qui remontent en fait la plupart du temps à Varron, fin du 1er siècle avant notre ère. Donc Ovid est plus explicite. Après l'interprétation des lares tutélaires, protecteurs, qui se réfèrent aux chiens gardiens de la maison et de la ville, Ovid en envisage une deuxième, qui part du culte des lares compitales, des lares des carrefours. Il existait en effet à Rome, une multitude de chapelles des Lares dans les quartiers de Rome, généralement plusieurs par région, par district augustéen de Rome. Les textes en comptent jusqu'à 265. Ces chapelles se dressaient au carrefour, c'est-à-dire aux petites places formées dans les quartiers par le croisement de plusieurs rues. C'était un peu le centre religieux, par exemple, du quartier. Le rapprochement n'est pas un jeu purement spéculatif, car d'après Ovide, le culte des Lares de Carrefour est parti du culte des Lares Praestites dont nous parlons. D'ailleurs, à la place de l'ancien temple ou chapelle des Lares Praestites, qui est désormais peut-être couvert par la grosse maison des Vestales, il existe, à côté du sanctuaire de Vesta, un sacellum, une chapelle qui semble être une chapelle de Carrefour des Lares, la chapelle de Carrefour des Lares de ce croisement que vous voyez là. Vraisemblablement, c'est de celle-ci que Plutarque part en tout premier lieu. La situation des deux lieux de culte des Lares, l'un ancien, mais désormais sans doute seulement une tradition, l'autre plus récent, combiné avec une interprétation étymologique, permet à Ovide de construire une explication de la nature et de la fonction des Lares, que connaît aussi Plutarque. Les carrefours sont également le siège des Hécates, on le sait, qui est de celles qui poursuivent les méchants et qui ménagent au carrefour une entrée ou une ouverture nocturne vers les enfers. On sait par exemple qu'en juin, lors de la passion de Cérès Déméter, pleurant sa fille Proserpine, enlevée par Pluton, les matrones romaines couraient de nuit au carrefour et y appelaient en se lamentant la fille de la déesse, enlevée et retenue dans les enfers. Un rapprochement, et ça se passe au carrefour, près des Hécates, près de cette entrée vers les enfers. Un rapprochement entre les Lares et les Laruae, les larves, les Maniae, c'est-à-dire les fantômes qui étaient liés à une certaine Mania, la mère des Lares, par les érudits romains depuis Aelius Stilo, le maître de Varron, donc depuis Stilo jusqu'à Macrobe, toute une tradition qui rapprochait les Lares, les Manes, les Larves, peut nous conforter peut conforter ce type de reconstruction. Une étymologie qui est attestée à l'époque d'Auguste faisait des Lares des divinités d'en bas. Dans les Res Gestae du divin Auguste, le traducteur qui traduit le texte en grec choisit pour Lares le terme de héroès, héros, défunt. À propos justement du sacellum qui nous intéresse, le sanctuaire des Lares dans le tronçon supérieur de la voie sacrée. Donc Auguste a manifestement fait une restauration, même si désormais ce vieux temple, cette vieille chapelle est inclus dans la maison des Vestales. Mais elle reste là comme tradition et sans doute comme un bâtiment, même si nous ne savons pas très bien où il se trouve et comment il se présentait. Comme Augusto Fraschetti l'a proposé dans son livre sur le prince et la ville, il faut voir là une interprétation, là, défunt, n'est-ce pas, favorisée par les érudits de l'entourage d'Auguste, car elle faisait des Lares les défunts de la famille du prince, autrement dit Agrippa, mort en 12 avant notre ère, et ensuite les jeunes Gaius et Lucius César, décédés au début de notre ère. De cette manière, les mythes étiologiques relatifs aux Lares pouvaient rapprocher ceux-ci de l'en bas, d'une manière ou d'une autre. Un des mythes ovidiens sur la naissance des dieux Lares est donné en commentaire du jour des morts, de la fin février, et situe les deux divinités à mi-chemin entre ce monde-ci et les enfers. Car Ovide savait bien que les Lares n'étaient pas, du point de vue théologique et rituel, des divinités d'en bas, des divinités des enfers. Néanmoins, comme leur domaine d'action était le terroir, et qu'ils recevaient leurs sacrifices par terre, on leur jette les offrandes par terre, semble-t-il, Ovide profite de cet écart par rapport au culte des dieux d'en haut, qui reçoivent leurs offrandes servies ou versées sur un autel, pour construire une interprétation qui les met en relation avec d'autres aspects des coutumes romaines. En tout cas, C'est manifestement ce contexte spéculatif que Plutarque exploite ici, une fois de plus, sans le dire. On notera qu'Ovide non plus ne signale pas explicitement cette construction. Plutarque, ou sa source, grécise l'argument en sous-entendant l'ensemble du raisonnement supposé connu, par ses lecteurs. Mais en lisant la question suivante, nous nous rendons compte que cette interprétation introduit également la question suivante. Pourquoi sacrifie-t-il un chien à la déesse appelée Mana Genita? Et prie-t-il pour que personne parmi les gens nés dans la maison ne devienne bon, en quelque sorte? Est-ce parce que Genita est un démon intéressé à la génération et aux accouchements des êtres périssables? Car son nom signifie en quelque sorte écoulement et génération, ou génération en cours. Aussi, de même que les Grecs pour Hécate, les dieux sacrifient une chienne à Genita pour ceux qui sont nés dans la maison. Socrate d'Argos, dit que les Argiens sacrifient à Eilioneia une chienne parce que celle-ci accouche facilement. Cependant, la prière que personne ne devienne bon ne porte-t-elle pas sur les chiens plutôt que sur les hommes vivant dans la maison? Il faut en effet que les chiens soient méchants et redoutables et qu'ils le restent. Ou bien, parce que les défunts sont appelés bons par euphémisme, ne demande-t-il pas dans la prière qu'aucun membre de la famille ne meure? Et il ne faut pas s'en étonner, car Aristote écrit dans le traité entre les Arcadiens que dans le traité entre les Arcadiens et les Lacédémoniens, il est stipulé que personne ne soit fait bon pour l'aide apportée aux Tégéens qui favorisent Sparte, c'est-à-dire que personne ne soit tué pour cette collaboration. La question est très complexe. Vous avez déjà reconnu des éléments qui étaient dans la question précédente. D'abord, cette déesse, Genita Mana, Mana Genita, est pratiquement inconnue. Seule Pline la mentionne comme destinatrice d'un sacrifice de chiot. On ne lui connaît aucun temple ou culte public. De toute façon, si nous considérons ce que Plutarque en raconte, il s'agissait de rites privés qui concernaient les familles et non le culte public. Il est question de la maison et de ceux qui habitent dans la maison. De ce point de vue, la 52e question est une digression qui se fait explicitement à partir du chien et à partir du nom de la déesse. Mais il y a d'autres liens avec la question précédente, par exemple Hécate, dont l'existence à l'arrière-plan a été mise en évidence. Et évidemment, il y a Lélare, qui, d'après la tradition, sont les fils de la Mater Larum, de la mère d'Hélare, qui s'appelait, d'après Macrobe, Mania, nous l'avons vu. De ce fait, la transition est assez simple. Mais avant d'aller plus loin, examinons la construction de la question qui est bien plus complexe encore, une fois de plus. Le problème est double. Pourquoi un sacrifice de chien à Genita Mana et pourquoi cette prière que personne ne devienne bon? Le seul élément disponible pour y répondre, outre le chien, est le nom de la déesse. Plutarque combine donc les différents sens de Genita et de Manus Mana. Pour Genita, un seul sens est adopté. C'est celle qui fait naître, et tout le reste des hypothèses dépend de Manus. La première interprétation est fondée sur deux sens du mot mana. Le premier dérive de manar est couler, écoulement, russis en grec, et fait de Genita Mana le flux de la naissance, la génération en cours, pour ainsi dire. Cette étymologie était également utilisée par Aelius Stilo dans le passage sur les maniae que j'ai cité plus tôt. Et cela permet d'introduire le sacrifice à cette personne, à cette divinité d'Argos, Aelioneia, qui est fait parce que ainsi la naissance s'effectue facilement, coule bien en quelque sorte. Je n'insiste plus sur le comparatisme rituel, Grèce-Rome, que fait Plutarque. Mais dans la même réponse, Plutarque donne déjà des éléments de la suivante. D'abord, quand il écrit que Genita est un démon intéressé à la génération et aux accouchements des êtres périssables, il sous-entend ici le deuxième sens de Manus, qui renvoie également au dieu Man, à leur mère Mania et aux Maniae, ces poupées fantômes que les Romains suspendaient aux autels des Lares pour préserver les membres de la famille. Selon d'autres interprétations, ces Maniae étaient des larves, larvae, des fantômes qui servaient à faire peur aux petits. Dans cette interprétation-là, la déesse est celle de la naissance et de l'accouchement de ceux qui seront des défunts, des périssables, des phtartoi, des mortels, en somme. L'interprétation est comprise dans la première question-réponse, celle d'une divinité qui protège les naissances d'une façon ou d'une autre. Par le recours à cette étymologie de Manus, et aussi par la citation d'un rite concernant Hécate, Plutarque glisse ainsi vers la deuxième interprétation, entièrement fondée sur le sens commun et plus général de Manus. En effet, d'après les grammairiens de l'Antiquité, Manus est un adjectif ancien signifiant « bon » et qui serait appliqué par euphémisme aux dieux Man, les dieux bons. Avec cela, Plutarque construit une interprétation, rappelez-vous. Cependant, la prière que personne ne devient bon ne porte-t-elle pas sur les chiens plutôt que sur les hommes, etc., vivant dans la maison? Il faut que les chiens soient méchants, etc. Ou bien, parce que les défunts sont appelés bons par euphémisme, ne demandent-ils pas dans la prière qu'aucun membre de la famille ne meure? Et il ne faut pas s'en étonner, car Aristote écrit que dans le traité entre les Arcadiens et les Lacédémoniens, il est stipulé que personne ne soit fait bon pour l'aide apportée aux Tégéens qui favorisent Sparte, c'est-à-dire que personne ne soit tué. La deuxième explication concerne, dans un premier temps, la prière domestique faite pour que personne dans la maison ne devienne bon, c'est-à-dire ne meure, ne devienne l'un des bons, l'un des mânes. Plutarque prend d'abord « bon » au sens littéral, n'est-ce pas? Conformément à l'étymologie précédente, « genita mana » est celle qui rend bon, qui génère le bon, le bien, en quelque sorte, et si on l'a pris, c'est pour rendre les maisons, les membres de la maison bons. Mais alors pourquoi le sacrifice de chiens, qui suppose un rapport entre eux et la déesse? Pour que les chiens ne soient pas bons, mais soient redoutables. C'est cela, pour cela qu'on prie. Dans un deuxième temps, la même prière et le sens de Manus sont appliqués aux membres humains de la famille, toujours avec un parallèle grec. Genita mana est prié de ne pas les rendre morts, en fait, bons. Il est clair que toute cette question est une digression rattachée au chien des Lares. Une digression un peu étrange quand même, avec cette divinité qui ressemble au dieu fonctionnel effectuant une tâche précise, une Sondergottheit, comme dirait Hermann Usner, mais qui est pratiquement inconnue à Rome. Parmi tous les sujets dont Plutarque aurait pu traiter, il choisit celui-ci, celle-ci, Genita mana, qui ne comporte qu'un intérêt très limité. En outre, la question n'est liée à aucun monument, si ce n'est à la chapelle des Lares, puisqu'elle traite simplement d'un sacrifice de chien et d'une invocation faite dans le cadre familial. Mais en continuant, on comprend la raison d'être de cette étrange digression, qui paraît vraiment faire retomber l'intérêt complètement après ces grandes questions sur le politique, etc. En effet, la question 53 porte sur un rite pittoresque lié au jeu capitolin. Je lis la question 53. Pourquoi, encore aujourd'hui, quand ils célèbrent les jeux capitolins, crient-ils « sardiens à vendre » et pourquoi promènent-ils par dérision un vieillard portant un collier d'enfant appelé « boula » ? Est-ce parce que Romulus, après que les Étrusques, appelés « veillens », lui eurent fait la guerre et que leur ville eût été prise la dernière, vendit à la criée de nombreux prisonniers de guerre avec leur roi, en se moquant de sa sottise et de sa stupidité. Or, puisque les Tyréniens, les Étrusques, étaient à l'origine des Lydiens et que Sardes était la métropole des Lydiens, on vendait les Veillens sous ce nom, Sardiens à vendre, hein. Et jusqu'à ce jour, les Romains en ont conservé la coutume pour plaisanter. L'interprétation est aussi connue que la fête, même si elle n'a sans doute rien à voir ni avec Veille ni avec les Étrusques, puisque d'après une autre interprétation, il s'agissait des Sardes, de Sardaigne, n'est-ce pas? Filippo Coarelli a également mis en relation les Jeux capitolins du 15 octobre avec le triomphe de l'époque archaïque, le triomphe du roi. Pour ce qui nous intéresse, la question se réfère à première vue au Capitole, les Jeux capitolins, hein, la vente des prisonniers de guerre au Capitole, etc. Mais c'est là de nouveau une interprétation trompeuse ou partielle. En fait, la procession avec le roi de veille et ceux qui s'en moquaient au cri de Sardi Uenales, Sardes à vendre, traversait aussi le forum. Plutarque écrit dans la vie de Romulus, 25-7, de là vient aujourd'hui encore, lorsqu'on célèbre un sacrifice en action de grâce pour une victoire, qu'on mène au Capitole, en traversant le forum, un vieillard vêtu d'une robe bordée de pourpre et ayant au cou une bulle comme celle que portent les enfants, tandis que les héros crient « Sardiens à vendre ». Donc, on traverse le forum. Par conséquent, cette question confirme que nous sommes bien censés contempler le forum. Nous sommes toujours au forum. La question suivante confirme cette localisation et permettent en outre de comprendre la construction de tout l'enchaînement des questions 51 à 54. Lisons d'abord la 54. Pourquoi appelle-t-on les marchés de viande Makella ou Makelloi, Makelli? Est-ce parce que corrompu par Magairoi, c'est-à-dire boucher, ce terme s'est imposé comme tant d'autres par l'usage? En effet, chez les Romains, le kappa est apparenté au gamma. C'est d'ailleurs tard qu'ils ont utilisé le gamma, découvert par Carvilius Spurius. Le lambda, la L à son tour, est utilisé par ceux qui prononcent mal le rho à cause d'une faiblesse de prononciation due au roulement. Magairoi, Magelloi. Ou bien est-ce que la question peut être résolue par l'histoire? On raconte en effet qu'à Rome, un homme violent, appelé Macellus, un brigand, qui avait volé de nombreuses personnes, fut à grande peine pris et châtié. Avec ses biens, un marché public fut construit, qui reçut le nom de cet homme. Disons un mot d'abord sur l'interprétation linguistique. Pour Plutarque ou sa source, le mot Macellum, marché, résultait d'une altération phonétique du grec magairos. Pour le C, il se réfère à la graphie ancienne qui ne connaissait pas de G et qui ne connaissait que le K. Cette lettre aurait été créée par Spurius Carvilius Ruga, un affranchi de Spurius Carvilius Maximus qui enseignait entre 254 et 234 avant Jésus-Christ à Rome. Quant au L, il résulterait d'une confusion entre R et L, et qui serait l'effet d'un roulement faible du R. Pour Varron, il s'agissait en tout cas d'un mot grec, même s'il optait pour le terme « makelos » et non pas « mageros ». On lit en effet chez lui « forum olitorium ». Ce dernier était l'antique « makelum », l'antique « hall », l'antique « marché », où l'on trouvait des légumes à foison. Aujourd'hui encore, les Spartiates donnent à ces emplacements le lieu de Makellon, enclos. On notera que pour Varron, le Makellum était la halle du Forum Olitorium que nous avons visité les fois dernières. Varron évoque encore d'autres marchés avant d'écrire l'évolution. Une fois groupés en un seul emplacement, toutes ces marchandises qui intéressent l'alimentation, et une fois cet emplacement bâti, on l'appela Makellum parce que selon certains auteurs, il y avait eu un jardin à cet endroit, parce que selon d'autres, là s'était trouvée la maison d'un voleur nommé Makellus, dont la maison avait été démolie par autorité de justice, et c'est de ces ruines qu'était sorti le bâtiment appelé, d'après l'individu, Makellum. Vous constatez comment Varron et ses sources combinent, à l'instar de Plutarque, les différentes explications et étymologies. Ce qui nous intéresse, ce sont deux données. Le bandit Makellus, et bien entendu la situation de ce grand Makellum qui conclut toute l'évolution des marchés dont parle Varron. D'abord la situation du Makellum. Le grand marché central construit sur l'ordre des censeurs en 179 avant Jésus-Christ se trouvait à l'emplacement actuel du Forum de la paix. Par conséquent, nous sommes toujours dans le quartier du Forum romain, pratiquement en face de la chapelle des Lares Praestites. Hein, les Lares Praestites devraient se trouver à peu près ici. Et là, vous avez la curie et la basilique Emilia, qui n'existait pas quand ce grand marché existait, et la place centrale. Et ce marché a été démoli à l'époque de Néron, semble-t-il, et de Vespasien, quand on a construit le Forum de la paix, et donc Plutarque a pu voir ses travaux en cours et encore les restes du vieux bâtiment. Donc nous sommes dans le quartier du Forum romain, en face de là où nous étions, chez les Lares Praestites. De l'emplacement du lecteur, ce marché pouvait être localisé aisément, ou du moins l'emplacement où il devrait, où il s'était trouvé, puisque à l'époque de Plutarque, il venait d'être remplacé, ou était en cours d'être remplacé et recouvert par le Forum de la paix. Le nom du brigand est plus intéressant encore, car il révèle encore un détail de la technique de Plutarque. Nous avons vu, rappelez-vous, l'étrange question 52 sur Genita Mana, dont on ne voit pas très bien pourquoi elle figure dans les questions romaines, suivie du commentaire de la procession du vieillard déguisé en roi et saluée par le cri « Sardiens à vendre », « Sardi Venales ». Pour comprendre, il suffit de lire un passage de Varron cité par l'érudit Aelius Donna dans son commentaire de l'énuque de Terence. Machellus se serait en fait appelé Manius Machellus. Vous avez déjà compris, n'est-ce pas? Il est vrai que le texte pose un petit problème, puisqu'on lit Romanus dans les manuscrits. Mais, ainsi que les philologues l'ont compris, il doit s'agir de Manius, car Oganius ou Omanius sont vraiment des choses tout à fait saugrenues. Si cette information est exacte, Plutarque la connaissait certainement, comme les autres grammairiens, et désormais, les liens cachés entre toutes ces questions ressortent clairement. À la question 51, on est censé découvrir du regard la chapelle des Lares Praestites sur le côté méridional du forum. Les Lares nous conduisent vers Genita Mana. Les Lares et leur mère Mania établissent le lien avec Mana. Le lieu permet d'évoquer une pittoresque procession, celle du vieillard déguisé et du cri Sardi Venales à vendre. Plutarque aurait pu l'insérer ailleurs, en rapport avec le forum ou même avec le Capitole. S'il le place ici, c'est à mon avis avec une intention particulière. À mon avis, c'est le terme Venalis qui a été important à vendre. C'est ce terme-là qui l'intéresse, car il prépare l'esprit pour une autre question consacrée au commerce, au marché. Et d'ailleurs, le mana de la question précédente et les liens Genita Mana avec Mania évoquent inévitablement en cet endroit le nom de Manius Machellus, n'est-ce pas? Autrement dit, depuis la question 51, le lecteur est orienté patiemment vers la question sur le marché, le Machellum. Mais continuons la promenade. La 55e question raconte une histoire qui nous éloigne à première lecture de l'endroit que nous sommes censés avoir sous les yeux. 55e question. Pourquoi permet-on aux ides de janvier, aux joueurs de flûte, de circuler dans la ville en portant des vêtements de femmes? Quand vous trouvez cela comme ça, cette question, vous demandez, mais où est-ce que j'en suis? C'est vraiment un désordre complet, ça n'a aucun sens, c'est un ensemble de fiches jetées sur la table. Vous allez voir. Est-ce pour la raison que l'on raconte? Les flûtistes jouissaient, à ce qu'il semble, écrit Plutarque, de grands honneurs que le roi Numa leur avait conférés en raison de la piété envers ce qui regardait le divin. Ayant été pris par la suite de ces honneurs, privés par la suite de ses honneurs, par les décemvirs, remplaçant les consuls, ils quittèrent la ville. On les rechercha donc, et une certaine superstition, une certaine anxiété superstitieuse, toucha les prêtres qui sacrifiaient sans accompagnement de flûte. Lorsqu'ils ne se laissèrent pas convaincre par les messagers, mais demeurèrent à Tibour, à Tivoli, un affranchi promit secrètement aux autorités qu'il les ramènerait. préparant un banquet abondant sous prétexte qu'il avait sacrifié, il les y invita. Des femmes y assistaient. Il y avait aussi de la boisson. Et une nuit entière se passa en amusement et en danse. Puis soudain, l'affranchi répand le bruit que son patron vient le trouver. Et tout agité, il persuade les joueurs de flûte de monter sur des chariots entièrement bâchés de peau pour être ramenés à Tibourg, à Tivoli. Or, c'était une ruse. Après avoir fait faire demi-tour aux chariots, il les transporta tous à leur insu à Rome, à l'aube, car ils ne s'en aperçurent pas à cause du vin et de l'obscurité. La plupart se trouvaient habillés de vêtements brodés de femmes, en raison de la nuit blanche passée à boire. Vous imaginez que la fête a été assez éclatante. Une fois qu'ils eurent été convaincus par les autorités et réconciliés, la coutume fut établie qu'en ce jour, ils se promèneraient dans cette tenue à travers la ville. Plutarque ou la tradition manuscrite ont commis ici une petite confusion, car la fête en question n'a pas lieu en janvier, le 13 janvier, mais le 13 juin. C'est en 312, avant notre ère, que les censeurs avaient enlevé, paraît-il, aux joueurs de flûte officiels le privilège d'être nourris au Capitole, au temple de Jupiter, d'où leur grève. Il est évident que ce récit étiologique n'est pas plus ou moins historique, comme Herbert Rose le pense, mais que c'est précisément un mythe. Herbert Rose commet d'ailleurs un autre contresens sur cette question quand il traduit à la première ligne « It is popular account true », c'est-à-dire certainement une tradition populaire. Est-ce que l'explication populaire est exacte selon laquelle, etc. Fondée sur des étymologies, des raisonnements historiques ou des arguments philosophiques, les mythes étiologiques n'ont en effet rien du conte populaire. Ils sont toujours des créations d'érudits. Plutarque se réfère à l'explication, à la raison communément donnée, c'est ça la traduction, et non pas à l'explication populaire, comme le dit Rose. Herbert Rose, dont Georges de Mézil a rageusement démoli quelques théories, était néanmoins un bon philologue, mais en matière de religion, il appartenait au XIXe siècle de James Frazer avec ses cultes naturalistes et l'omniprésence du magique. Comme disait Dumézil, chez Rose, c'est Magic City, il disait. On pourrait mesurer la distance parcourue par les sciences des religions en lisant l'interprétation que Georges Dumézil a donnée 50 ans plus tard de ce mythe, en 1973, dans Mythe et Épopée 3. Et pourtant, l'interprétation qu'il donne se rattache pour une fois au culte naturaliste. En même temps, cette lecture du Mézilien est assez troublante, car elle aboutit à une preuve indépendante de la validité d'une reconstruction faite à partir du comparatisme. J'ai brièvement fait allusion à l'explication que Herbert Rose donnait de ce rite pour vous faire mesurer les progrès réalisés en une génération, entre lui et Georges Dumézil. Pour Rose, le rite des Tibikines, pourrait être destiné à combattre toutes les mauvaises influences qui menaçaient ceux qui célébraient le culte en cette saison. Et il hésite à considérer toute l'histoire comme historique, ou comme la réémergence d'un vieux rite, de même que, je cite, le complot des poudres, qui était tout à fait historique, a suscité en Angleterre une renaissance de rites de végétation immémoriaux au début novembre. Je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. D'autre part, Rose confond toujours l'analyse d'une source précise avec l'analyse de toutes les sources, de toutes les versions de l'histoire. Plutarque, par exemple, considère que les joueurs de flûte portaient des vêtements de femmes, et c'est l'élément qu'il utilise dans l'économie des questions, de sa question, de son questionnement. Il est inutile dans ce contexte de se demander si ces vêtements étaient réellement des vêtements de femmes, puisque d'autres sources ne sont pas claires sur ce point. Toge longue chez Ovide, qui pourrait renvoyer à un ancien vêtement, ou simplement déguisement d'hiver et masque. Dans le cas présent, cette donnée n'est pas pertinente. Plutarque qualifie les tenues des flûtistes de vêtements de femmes, Et c'est avec cette donnée qu'il faut travailler dans le cadre de cette source, puisque c'est cela que Plutarque explique. Mais lisons, avant de continuer, l'interprétation de Georges Dumézil. Dumézil compare l'histoire que Plutarque vient de raconter à celle de la déesse védique de l'aurore, Ushas. Il la place dans le contexte plus vaste des jours précédant le solstice d'été. Dans un mythe relatif à Ushas, comme dans notre histoire, le contexte particulier serait celui du souci stylisé devant le renversement dans le mouvement du temps diurne qui intervient en ces jours de solstice d'été. Les fêtes qui ont lieu à Rome entre les Matralia du 11 juin et le 20 juin, quand on célèbre l'anniversaire du dieu du temple du dieu Soumanous, qui patronne les foudres nocturnes proches de l'aurore, sont toutes relatifs à la lumière et notamment à l'aurore. On commémore aussi pendant cette période, le 18 juin, un événement mythico-historique, c'est-à-dire la première victoire remportée à l'aube par Camille, le protégé de Mater Matuta. Georges Dumézil a essayé d'étoffer ce dossier. Dans un premier temps, toutefois, pour explorer toutes les possibilités d'une réflexion sur l'aurore en relation avec cette période de l'année, il étudie le mythe d'Ushas et de ses problèmes avec le dieu védique Indra. La déesse védique Ushas se déplace généralement dans un char, prodigue des dons, et éveille le monde en apportant la lumière du jour. C'est la déesse Aurore. Le dieu Indra, qui corrige toute infraction à l'ordre du monde, attaque et brise, d'après un hymne, le chariot d'Ushas. Indra se bat notamment contre les dieux accapareurs. Dans le cas présent, il sévit contre Ushas, qui ne se déplace plus dans un char, mais tout d'un coup, lentement, dans un lourd fourgon. Bref, la déesse est volontairement paresseuse dans ce mythe. Devant cette attaque, Ushas abandonne son chariot pour un fourgon à bœufs et ne distribue plus de cadeaux. Et les poètes védiques se moquent dans leurs poèmes de la déesse, ainsi humiliée et punie par Indra pour sa lenteur qui met en danger l'ordre du monde. Ce thème permet à Dumézil de comprendre, c'est-à-dire de structurer le mythe romain des flûtistes. Le premier fait est que le mythe et le rite de la fête des quinquatrus minusculae, des petites quinquatrus, sont placés le 13 juin, le troisième jour après les Matralia, la fête propre de Mater Matuta, la déesse Aurore, à Rome. D'après la coutume romaine, cet écart de deux jours signifie que les fêtes sont éventuellement liées. La grève des flûtistes est grave, car d'après les différentes versions du mythe, les prêtres ne peuvent plus célébrer les rites sans la musique rituelle procurée par les flûtistes. Leur rôle est si important que seuls, parmi les associations professionnelles, ils ont une fête spéciale, c'est Quinquatrus, des Ides de juin, le 13 juin. Les autres corporations de techniciens, d'artisans, ont leur fête en mars, lors des grandes Quinquatries, des grands Quinquatrus. Dumézil note que la fête tombe les Ides, c'est-à-dire au sommet du mois, le 13 ou le 15 du mois, suivant le mois, qui est consacré à Jupiter. Et de même, les flûtistes ont le droit de banqueter au temple de Jupiter. Ils sont donc comme associés au dieu Jupiter. Leur grève vient précisément de ce que ce privilège leur a été enlevé. Le mythe, comme le nom du jour, les petites quinquatries, et la mascarade qu'ils célèbrent, les humilie et les ridiculise au jour même de leur fête, ce qui signifie que l'importance de cet élément. Malgré les variantes de l'histoire, la trame est toujours à peu près la même. La grève, le départ pour Tivoli, la nuit d'orgie et le retour des flûtistes entassés dans un char à Rome où ils réapparaissent travestis. Georges Dumézil note un parallélisme étroit entre les deux rites. Ushas se met donc en quelque sorte en grève comme les flûtistes, et comme eux, elle bloque la distribution des bienfaits quotidiens. On peut objecter que les bienfaits apportés par Ushas sont d'un autre type que celui des sacrifices, mais on peut admettre que le résultat est le même. Les deux récits peuvent donc, d'après Dumézil, être mis en parallèle. Dumézil met aussi en évidence la correspondance entre le rite des Matralia et le mythe étiologique des petites Quinquatrus du 13 juin. Sa conclusion est que les mythes et les rites sont liés à l'aurore, dont l'activité est ralentie à partir du solstice d'été, afin de soutenir son action, qui ne cessera de décliner et de mettre en quelque sorte en scène son prochain retour aux affaires à partir du solstice d'hiver. En général, les historiens des religions d'aujourd'hui sont méfiants à l'égard de rites interprétés par des mythes utilisant la même trame et qui se réfèrent aux phénomènes naturels. Cela d'autant plus qu'un autre savant, Boris Ogibenin, qui a consacré un livre à la déesse Ushas, conteste l'interprétation cosmique du mythe. Celle-ci est tout à fait justifiée, mais il précise qu'elle n'est pas la seule possible. Vraisemblablement, Aurore Ushas n'éveille pas simplement le matin, le monde, le matin, en apportant le soleil, mais elle éveille surtout, et c'est typique des textes et des hymnes védiques, elle éveille surtout aux activités les plus éminentes, c'est-à-dire celles du sacrifice. En complétant l'interprétation dumézilienne, Ogibenin montre donc que l'œuvre de la déesse consiste à inciter les patrons des sacrifices à la générosité, ce qui représenterait sa contribution majeure au sacrifice efficace. Comme Boris Ogibenin le souligne, Dumézil avait bien compris cette conception de l'œuvre d'Ushas et rien n'interdit de comprendre ainsi le mythe romain des flûtistes. Au contraire, vous l'avez vu, les données romaines correspondent même mieux à cette orientation du mythe. Ce qui est plus problématique, c'est l'interprétation cosmique du rite des Matralia du 11 juin comme une allusion au solstice d'été à l'aurore, mère du soleil. Certes, rien n'interdit de considérer ce rite comme une mise en scène de l'aurore, peut-être pour la définir, si nous suivons la lecture dumézilienne, moins pour renforcer son énergie au moment où l'aurore quotidienne commence à tarder, à devenir paresseuse. Mais il y a indéniablement des ressemblances entre les mythes examinés, et on ne peut pas tout simplement l'écarter, d'autant plus que le lien entre Ushas et la parole poétique, la parole inspirée, trouve à nouveau un point d'appui dans le quartier où nous allons nous trouver, c'est-à-dire à quelques pas du temple de Mater Matuta, où se trouve le temple de Carmenta, qui, comme son nom l'indique, a un rapport avec le Carmen, avec la poésie. Nous y viendrons tout de suite. Le dossier Dumézil, présenté par Georges Dumézil, est d'autant plus troublant que des deniers de Lucius Plotius Plancus, émis en 47 avant Jésus-Christ, paraissait combiner les mêmes éléments et offrir ainsi une preuve tout à fait extérieure, indépendante de ses propres reconstructions. Lucius Plotius était un descendant du censeur Plotius, qui avait été le collègue du terrible Appius Claudius, qui, en 312, a privé les flûtistes de leurs privilèges. Plotius est celui qui a arrangé les affaires et qui a convaincu les flûtistes de reprendre leur flûte et leur office. Et l'on sait que souvent les descendants mentionnent sur les monnaies qu'ils frappent les exploits de leurs ancêtres. Or, Lucius Plotius, qu'est-ce qu'il met sur ses monnaies? Il fait figurer sur ses monnaies, pensait Dumézil et tout le monde à l'époque, un masque comme celui que, d'après certaines traditions, les flûtistes semblent avoir porté lors de leur mascarade. Donc ce serait une allusion aux flûtistes. Et de l'autre, sur le revers, on a une représentation du char de l'aurore. Ces monnaies paraissaient donc se référer à la réussite de l'ancêtre, le censeur Plotius, et prouver que l'aurore est importante dans toute cette histoire. Autrement dit, les monnaies paraissent donc confirmer la reconstruction de Dumézil. Cet argument a toutefois été battu en brèche par une étude, qui n'est pas plus tout à fait récente, mais qui a mis du temps à s'imposer. Le masque est vraiment défini est maintenant défini comme un gorgoneion, comme un masque de gorgone, qui renvoie à la guerre, à la cuirasse, n'est-ce pas? Et le revers n'est plus du tout une aurore sur son char, mais tous les numismates l'identifient maintenant tout simplement comme une victoire. Comme tant d'autres monétaires, notre Lucius Plotius se réfère à une victoire remportée par l'un de ses ancêtres, ou mieux encore, il s'associe à la victoire d'un grand, par exemple à la date où il émet ses monnaies en 47 à César.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shade. Réalisation Thomas Luther. Présentation Christine Goémé.
Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, dans les chemins de la connaissance, de la littérature indienne à Borges, voyage dans les littératures d'Amérique latine, les archives de 1969. Hors les murs, au Collège de France, qui crée cette année la chaire de création artistique et ouvre ce nouveau cycle d'enseignement par l'architecture, la leçon inaugurale de Christian de Port-en-Part. Architecture, figure du monde, figure du temps. L'évolution en question, au Muséum d'Histoire Naturelle. Enfin, l'urbanisme des Trente Glorieuses, une atteinte au développement durable, au CNAM. Dans les sentiers de la création, voyage en pays de gangsters, voyous et brigands, à travers des archives INA, au parloir, entre autres, Carlo Levi, Alphonse Boudard, John Huston. Paroles de chorégraphe au Centre Pompidou, celle de Jérôme Bell. Enfin, pour les belles captives cinématographiques, Les Corps Impatients, film de Xavier Giannoli, l'analyse de Jean Douchet. À la carte, les chemins de la connaissance, les sentiers de la création, 24 heures sur 24, sur franceculture.com.
On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est, je crois. Mais on peut échapper au pire quand même. Je suis abandonné à mon bon vouloir, toujours. C'est pour ça que je ne fais partie d'aucun clan. J'ai aucun avis sur ce que doit être l'esthétique contemporaine ou même passée. J'ai un respect pour l'œuvre d'art, c'est bon. Mais ce n'est pas un particulier apprentissage que j'ai fait. Je n'ai pas été à l'école des Beaux-Arts. J'ai un très bon professeur de dessin. Mais je ne suis pas passé par les grandes écoles.
Du 27 au 31 mars, 5 entretiens inédits, dont mémorables, avec celui qui nous a quittés le 8 février dernier, à l'âge de 86 ans, le peintre et sculpteur Jean Époustegui. 5 entretiens généreux et passionnés, enregistrés en 2003, chez lui, dans son atelier de Choisy-le-Roi, au cœur d'un vaste parc sauvage où l'on pouvait admirer ses marbres et bronzes. Hommage à Époustegui, mémorable, du 27 au 31 mars à 20h30.
Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire. C'est aujourd'hui le débat entre chercheurs et historiens autour du thème de la semaine, les étudiants et le pouvoir. 10h, c'est le temps des humanités. Tire ta langue s'intéresse à la PNL, la programmation neuro-linguistique. En quoi consiste-t-elle? Invité Monique Esser, docteur en sciences pédagogiques, professeur à l'Université catholique de Louvain. 11h, fiction feuilleton, grande et petite histoire de la comédie française, Le siècle des Lumières, par Maurice Levert, 39e épisode. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance, du révisionnisme au négationnisme, poursuivent l'exploration de ces thèses qui sont partie intégrante de l'entreprise génocidaire et dont la rhétorique présente de nombreux caractères invariants malgré la diversité des événements auxquels elle se rapporte. Invité ce matin, Marc Nishanian, professeur de langue et littérature arménienne à Columbia University. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand.
Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Il est 6h59, le programme de ce jeudi 30 mars 2006 passe à 7h20 par les enjeux internationaux autour d'une question plus large, presque philosophique. Pourquoi les grandes valeurs occidentales ne sont-elles pas toutes reprises dans d'autres régions du monde? 7h40, deux invités dans l'émission aujourd'hui. Ils sont maires de villes de banlieue parisienne, Pierre Cardot à Chanteloup-les-Vignes et Claude Dillin à Clichy-sous-Bois. Vous le savez, il y a quelques semaines, France Culture Culture avait posé ses micros dans plusieurs des villes secouées par les émeutes de novembre dernier. Notre volonté était de revenir régulièrement, voir comment les choses évoluent, depuis ce qui a tout de même été sur place et en France un véritable traumatisme. Évidemment, les événements de ces dernières semaines, la mobilisation contre le CPE, tout cela a réveillé des craintes, parfois des violences. Et les maires des villes de banlieue ont à nouveau parlé d'une seule voix, qu'importe leur couleur politique, pour dire leur inquiétude. On parle donc de la situation actuelle, quelques mois après les émeutes en banlieue et au moment où se déploie le mouvement contre le CPE. On en parle avec Pierre Cardot et Claude Dillin. Il est 7h. Première édition du journal, Jean-Louis Crimon.
Bonjour, alors que tous les responsables syndicaux et politiques sont dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, décision qui pourrait être annoncée dès ce soir, la mobilisation anti-CPE se poursuit. Ainsi en ont décidé hier les secrétaires généraux des 5 confédérations syndicales. Nouvelle journée d'action donc le 4 avril prochain, mardi prochain. Mais François Chérec ne cache pas ses inquiétudes de voir le gouvernement jouer la montre et parier sur un essoufflement du mouvement avec l'arrivée des vacances de Pâques. Vous entendrez François Chérec dans cette édition. Le Premier ministre maintient le cap, même si hier à l'Assemblée, un malheureux lapsus lui a fait prononcer le mot démission. Analyse dans un instant Jean-François Aquili. Enfin, toujours dans ce chapitre CPE, le ministre de l'Éducation Gilles de Robien a demandé qu'il soit mis un terme au blocage des lycées, les proviseurs pouvant recourir, si besoin, à l'aide des forces de police. Réaction indignée du secrétaire général de la FSU, Gérard Askiri. À la sécurité sociale aussi, il faut faire des gains de productivité. Le directeur de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a annoncé hier son intention de supprimer 3700 postes d'ici 4 ans en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite. Explication, Cécile Asp. Enfin, en Allemagne, à l'appel d'IG Metall, plus de 80 000 métallos ont débrayé hier. Le syndicat de la métallurgie réclame une hausse des salaires de 5% compte tenu des bénéfices records réalisés dans le secteur. Explication à Berlin, Nathalie Versieux. Il y aura donc une nouvelle journée de grève et de manifestation pour demander le retrait du contrat première embauche. Ainsi en ont décidé les secrétaires généraux des 5 confédérations syndicales qui conduisent la campagne anti-CPE. Ce sera mardi prochain, 4 avril. Le secrétaire général de la CFDT, François Chérec, est comme tout responsable syndical ou politique aujourd'hui dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Mais dès hier, il ne cachait pas ses craintes de se trouver face à un gouvernement qui aurait choisi de jouer la montre et de parier surtout sur un essoufflement du mouvement en milieu étudiant et lycéen avec l'arrivée prochaine des vacances de Pâques. François Chérec, c'était hier en début de soirée sur France Culture, dans le journal de 18h de Frédéric Carbone. François Chérec.
Je crains que le gouvernement joue la montre, comme on dit. Il sait qu'il y a une période de vacances scolaires, donc je crains qu'il se dise encore une manifestation, une de plus, et après les vacances noieront la mobilisation.
Non. Mais c'est une façon de vous faites un peu ça, une manifestation, une de plus.
Bah, une manifestation, une de plus, nous sommes bien évidemment prêts à arrêter les manifestations si le président de la République nous entend. Il n'y a aucun contact qui a été pris depuis la manifestation. Le président de la République a reçu notre courrier hier soir à 21h. On les a informés de l'envoi de notre courrier. On n'a aucune réaction depuis. Pour le moment, c'est le vide total, d'où notre détermination à bien montrer. D'une part que nous continuerons notre action si le président de la République ne nous entend pas, donc ça veut dire écouter un petit peu ce qui s'est dit dans cette manifestation hier qui était d'une ampleur exceptionnelle dans notre pays, mais aussi, et c'est écrit dans notre courrier des 5 secrétaires généraux, nous sommes prêts à dialoguer, à négocier sur les problèmes qui sont posés à notre pays. Nous avons une volonté de dialogue et de négociation, mais est-ce qu'on veut bien nous la donner une fois dans notre pays, nous faire confiance et nous ferons la démonstration que la confiance ne sera pas usurpée.
François Chérec, interrogé par Frédéric Carbone, c'était hier dans le journal de 18h sur France Culture. Je vous le disais en titre, le Conseil constitutionnel pourrait rendre sa décision dès ce soir sur la loi égalité des chances, loi qui crée, vous le savez, le contrat première embauche. Saisi le 14 mars dernier par les parlementaires socialistes, les membres du Conseil constitutionnel avait un mois pour se prononcer. Lors de la séance des questions au gouvernement, Dominique de Villepin a lui-même affirmé aux députés que cet avis serait rendu ce jeudi. Cela dit, experts constitutionnalistes et responsables politiques sont pratiquement unanimes à ne pas croire à une censure du texte. Renaud Candelier.
Une censure de l'amendement sur le contrat première embauche apparaît peu probable. Les quatre arguments développés par le Parti Socialiste dans son recours ne prouveraient aucune inconstitutionnalité. Ainsi, le Conseil d'État n'a pas été consulté, mais comme il s'agit d'un amendement, la critique n'est pas valable. À propos d'une absence de lien entre l'amendement et le projet de loi, le Conseil des sages a l'habitude d'être assez souple, et dans le cas du CPE, l'objectif est bien l'égalité des chances d'accès à l'emploi entre les jeunes et les autres. Maintenant, sur le fond, y a-t-il discrimination par l'âge? A priori, non. Le Conseil admet que le législateur déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général. Enfin, sur la motivation du licenciement, le Code du travail